Oui, c'est un long parcours parce qu'il a duré, on va dire, deux générations. En gros, si vous voulez, bon, ben, je suis journaliste de base, mais j'ai fait ma carrière comme secrétaire de rédaction, c'est-à-dire ces journalistes dont on connaît mal le métier, mais qui organisent les pages, qui les reçoivent, qui les fabriquent, qui les montent, et qui travaillaient la main dans la main avec ces ouvriers qu'on appelait les ouvriers du livre pour terminer le travail des journalistes de terrain qui, eux, vont à la recherche de l'information et qui l'écrivent. Donc, ce type de journalisme, secrétariat de rédaction, aujourd'hui existe toujours, même si effectivement la vie dans les médias a considérablement changé avec l'arrivée d'Internet, de l'informatique, etc., etc. Mais néanmoins, je suis très fier d'avoir fait ce métier-là parce que c'est un métier qui est un petit peu dans un processus industriel, parce qu'un journal c'est aussi une industrie entre effectivement la recherche, la fourniture, la trouvaille de l'information et sa mise en lumière avec un produit fini qui s'appelle le journal. Voilà. Et donc c'est cette espèce d'équipe au milieu aujourd'hui toujours un peu mal connu, mais qui a un rôle absolument évidemment essentiel pour qu'un journal paraisse. Donc j'étais secrétaire de rédaction pendant de très très nombreuses années, et puis là j'ai pris un peu de galon, et voilà, j'ai terminé comme éditorialiste du journal pendant un certain nombre d'années là aussi. Bon, et puis parallèlement, si vous voulez, à ces occupations qui prenaient beaucoup de temps, j'avais d'autres passions, et l'une de ces passions notamment était la bande dessinée, puisque j'ai eu la chance, c'est une chance, d'être un des premiers journalistes à couvrir le festival d'Angoulême, les tout premiers festivals d'Angoulême en 1975. Au point, si vous voulez, que, et on va continuer à faire gonfler les mollets, j'ai donc eu la chance aussi d'écrire un ouvrage qui s'appelle Le Grand 20e et qui raconte l'histoire d'Angoulême. Voilà, et qui a été publié conjointement avec La Charente Libre, qui est le journal d'Angoulême, et La Presse Quotidienne Régionale, voilà, qui fait aujourd'hui toujours un petit peu, même si on en est au 43e anniversaire, qui fait toujours un petit peu office de référence, et qui a été édité et vendu au moment du 20e anniversaire. Voilà, et donc est un gros pavé, très illustré, etc., etc., dont je suis assez fier d'ailleurs, parce qu'il continue aujourd'hui à être considéré un petit peu comme une référence au niveau d'Angoulême, quoi. Voilà.
Est-ce que vous avez écrit pour la bande dessinée ?
J'ai pas écrit en tant que tel pour la bande dessinée, même si l'envie ne m'en manquerait pas. J'ai écrit au moins un ouvrage en collaboration avec un collectionneur extraordinaire qui est tourangeau, qui s'appelle Alain Béran. Alors attendez, on va recommencer au début. Quand je suis arrivé, si vous voulez, à la Nouvelle République publiait des bandes dessinées, d'accord ? Des bandes dessinées sous forme de strips, trois images, et en l'occurrence, le strip qui passait le plus souvent, dans les années 70 par conséquent, c'était un strip qui s'appelait « Les aventures de Monsieur Baumel », et qui était une bande dessinée animalière, dessiné par un auteur néerlandais, qui s'était exilé en l'occurrence pour des problèmes de fisc en Irlande, et qui s'appelait Martin Thunder. Et donc, les aventures de Monsieur Baumel, et en fait, le héros était un petit chat blanc, qui s'appelait Tom Pouce. Et moi, arrivant à la République, en voyant cette bande dessinée, j'ai trouvé ça complètement ringard, etc. C'est pas possible, quoi. Bon, etc. Et je n'ai eu de cesse que de plaider auprès du rédacteur en chef. Mais il faut arrêter ça. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Un journal qui se veut un petit peu ouvert et tout. Il faut, c'est des vieilleries, etc., etc. Et finalement, le rédacteur en chef de l'époque a accepté ma proposition et nous avons arrêté Martin Thunder. Et il a fallu de nombreuses années plus tard que je me rende compte que j'avais fait une bêtise sans nom et que monsieur Alain Béran, donc le collectionneur tourangeau, me fasse me rendre compte de l'incroyable qualité graphique et imaginative de cette bande dessinée qui est absolument superbe. Et donc tous les deux nous avons décidé de faire un livre sur Martin Thunder, et j'ai eu la chance de pouvoir aller le rencontrer en Irlande, chez lui, où il m'a reçu, complètement stupéfait qu'un journaliste français d'une petite ville perdue de province vienne le voir en Irlande pour parler de Tom Pouce et de Monsieur Baumel. Mais il m'a raconté plein de choses, il m'a donné plein de documents, il m'a laissé faire des photos et tout ça, et nous avons sorti un ouvrage qui s'appelle Martin Thunder, l'enchanteur au quotidien, qui a été édité par la Nouvelle République, mais à l'époque, sur des histoires un peu de d'édition, tout ça, qui sont pas très très bien déroulées, on l'a mis en vente à des prix défiant toute concurrence, et ça a été un échec commercial, si vous voulez. Ça a été un échec commercial, mais c'est pareil, ça a été considéré aussi un petit peu comme un ouvrage de référence, si vous voulez, et même encore aujourd'hui, quand je retrouve ou quand je vois des agrandissements de cases dessinées par Martin Thunder, C'est de la bande dessinée de très très haut niveau. C'est absolument magnifique, si vous voulez. Alors, pardon, juste une petite seconde, Yann, pour dire aussi que cette bande dessinée arrivait directement d'Amsterdam, sous forme de strip en carton, donc qu'on reproduisait. Et le texte, puisque là, il n'y avait pas de bulle à l'époque, il se trouve que Martin Thunder ne travaillait pas avec des phylactères, mais avec du texte sous l'image, d'accord? Donc, le texte racontait, mais en même temps aller au-delà de ce qui se passait dans l'image. Et il nous arrivait sous une forme sur papier dactylographié, dans un espèce de langage qui était à moitié anglais, à moitié français, à moitié hollandais, un sabir complètement incompréhensible. Et donc, il s'est trouvé deux secrétaires pour réécrire ce texte. Et la deuxième secrétaire, qui était la secrétaire du rédacteur en chef, Madeleine, a totalement, comment dirais-je, s'est inspirée de ce qu'elle voyait dans les images et en même temps du texte, et elle s'en est un petit peu détournée pour franciser les noms hollandais des animaux qui représentaient des hommes. C'est des histoires d'animaux dans un monde d'hommes, on va dire ça comme ça, et pour leur donner des noms qui disaient des choses aux gens. Et au point que, et cette bande dessinée est passée pendant 27 ans dans la Nouvelle République, que les lecteurs de la Nouvelle République ont cru que le dessinateur, dont ils ne savaient pas du tout d'où il était en fait un dessinateur régional, et que quand on représentait Monsieur le maire sous la forme d'un gros canard, ou etc., etc., et bien sûr, c'était le maire de tel village, etc., etc. Et ils se sont complètement attribués les personnages de cette bande dessinée, au point que, effectivement, Monsieur Baumel est devenu une sorte de symbole de la Nouvelle République au fil des années. Et j'ai jamais réussi à le retrouver, au moment du Tour d'Indre-et-Loire, du Tour cycliste d'Indre-et-Loire, le véhicule de la Nouvelle République, le car podium, on va appeler ça comme ça, mais c'était pas ça à l'époque, circulait avec une statue de Monsieur Baumel, je ne sais pas, en plastique, au-dessus de son toit, tellement c'était Monsieur Baumel était la Nouvelle République, vous voyez. Il y avait vraiment une fusion complète entre l'électorat et puis cette bande dessinée, quoi, que j'ai fait disparaître d'un revers de main, dans les années 75-80, pour passer effectivement à des bandes dessinées plus modernes, si vous voulez. Mais bon, voilà comment, effectivement, donc, j'ai pas vraiment écrit, si vous voulez, en tant que j'ai jamais été scénariste ou des choses comme ça, mais j'ai quand même fait ce genre de travail, quoi.
Et du coup, une autre forme de dessin qu'on peut trouver dans un journal, c'est le dessin de presse.
Bien sûr.
Et c'est le sujet de cette opération.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez une définition du dessin de presse? Comment vous pourriez nous le définir?
Alors, le dessin de presse se situe quelque part entre l'illustration, la bande dessinée, on va appeler ça comme ça, même si la définition de la bande dessinée est un peu compliquée, et la caricature. Bon, alors, on peut effectivement, vous voyez, il y a trois genres différents. Alors, et on peut, je veux dire, et en plus, le dessin de presse, faut être très clair, n'est pas forcément une quelque chose de méchant, de violent, de négatif ou de politique. Je pense qu'on peut, et on le sait très bien, hein, on peut très bien avoir des dessins de presse qui sont simplement des vues, la manière dont un artiste, il n'y a pas d'autre mot, un dessinateur, appelons-le comme ça, imagine ou voit tel moment et comment il le ressent et qu'il le couche sur du papier. Et je pense qu'effectivement, il y a une nuance à l'intérieur de toutes les possibilités du dessin de presse qui font qu'effectivement, vous avez des dessinateurs de presse qui sont des caricaturistes, méchant, violent. Enfin, je veux dire, on peut remonter à Daumier des choses absolument terribles de l'époque du 19e siècle. On peut aussi, effectivement, aller sur des dessinateurs, notamment américains, qui sont des gens qui ont des par exemple, qui font des caricatures d'hommes politiques ou des choses comme ça. On peut même dire que, à la limite, est-ce que les grandes gueules de Mulatier, est-ce que c'est du dessin de presse? Oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, l'idée, en tout cas en France, qu'on se fait du dessin de presse, c'est beaucoup un dessin lié à l'actualité et plutôt à l'actualité politique. Et effectivement, on peut considérer d'ailleurs dans ce genre que, et c'est bien pour ça que cette opération a vu le jour, les gens de Charlie Hebdo avaient quelque part mis, comme ceux d'ailleurs du Canard Enchaîné et Foi de Clair, mis à un très haut niveau le dessin de presse et la volonté politique de ce que voulait dire et ce que voulait apporter le dessin de presse, quoi. Mais c'est pas une définition satisfaisante, hein, je suis d'accord, mais bon, c'est... Bon.
Hervé, c'est vous qui avez monté la première édition de Je suis l'actu, vous vous occupez maintenant de la deuxième. Comment vous est venue l'idée et l'envie d'organiser ce concours? C'est votre amour pour la bande dessinée, pour le dessin?
Alors oui et non, c'est un peu compliqué. Je crois que bon, la première édition honnêtement était marquée par ce qui s'est passé au mois de janvier l'année dernière, il y a 2 ans, avec le massacre de chez des gens de Charlie Hebdo. Et en fait, si vous voulez, dans la toute première manifestation spontanée qui s'est tenue devant l'hôtel de ville, j'ai rencontré déjà des dessinateurs, des gens de graphisme qui se regroupaient en disant mais il faut qu'on fasse quelque chose, etc., etc. Et à ce moment-là aussi, ils ont commencé à arriver sur le net, à la fois d'ailleurs dans le site internet de la Nouvelle République, mais d'autres, des dessins spontanés de dessinateurs venant de partout, il y en a eu de partout d'ailleurs, qui étaient absolument superbes et des témoignages émouvants, poignants, etc., etc. Et donc l'idée a commencé à circuler de qu'il fallait faire quelque chose. Il y a eu un certain nombre d'idées qui ont été lancées, voire même l'idée d'une exposition spontanée qui aurait lieu à Tours, et puis finalement, pour des tas de raisons x, y, ça ne s'est pas fait. Et donc le rédacteur en chef de la Nouvelle République, Bruno Bécart, c'est lui, hein, il faut lui rendre cet hommage, qui a eu cette idée en fait, de dire mais pourquoi est-ce que la Nouvelle République ne reprendrait pas au bon toute cette pulsion, de cette volonté d'exprimer des choses par le dessin. Et donc effectivement, l'idée ça a été de dire, voilà, vous n'êtes pas des professionnels, parce que c'est pas le même jeu, c'est pas la même chose, mais la Nouvelle République vous ouvre ses colonnes, vous avez entre, bon, je sais pas, 17 et 25 ans, vous êtes ce qui vient de se passer vous trouble, vous émeut, vous met en colère, etc., etc. N'hésitez pas, envoyez-nous des dessins et puis on va organiser quelque chose autour de ça. Voilà, si vous voulez. Alors après, ça s'est structuré, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a mis des règles du jeu, etc., etc. Pas plus de 3 dessins par semaine, un jury qui s'est mis en place, etc., etc. Donc, mais le point de départ, si vous voulez, c'est clair, c'est l'émotion qui a été suscité, si vous voulez, par ce qui s'est passé à Charlie Hebdo.
C'est pour ça que ça s'appelle Je suis l'actu, en référence voilà. Je suis Charlie.
Exactement. Exactement. Et merci d'ailleurs, et grand merci à notre ami Philippe Larbier d'IPL, qui est le dessinateur, qui est un des dessinateurs de la Nouvelle République, qui est dessinateur également de bande dessinée, et il nous a fait un logo qui correspond exactement à ça, avec et qu'on continue à utiliser d'ailleurs, quoi. Donc, l'idée c'était, voilà, je suis l'actu, c'est-à-dire qu'on marquait bien le territoire, c'est-à-dire qu'on disait bien, voilà, vous nous faites des dessins a priori sur l'actualité, ce que ça inspire. Voilà, c'est ce que ça vous inspire, vous, jeunes dessinateurs, vous les mettez sur le site Nouvelle République, il y a un jury ensuite qui décide, et chaque semaine, chaque dimanche, le dessin sera publié dans l'édition dominicale de la Nouvelle République, le NRD, quoi. Ce qui s'est en effet passé, quoi.
Émilie Verbe vient de nous rejoindre. Nous parlons de l'opération Je suis l'actu, qui offre la possibilité à de jeunes dessinateurs de moins de 25 ans de voir leur dessin, publié dans la Nouvelle République. Alors bonjour Émilie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots rapidement?
Oui, bah écoutez, voilà, moi je suis Tourangelle, j'ai fait mes études en partie dans le graphisme, notamment une prépa à Brassard et un BTS communication visuelle à Paris. Et quand, après les événements de Charlie, voilà, l'ANR décidé d'organiser ce concours de dessin pour prouver que le dessin d'actu n'était pas mort et que les jeunes n'avaient pas peur de dessiner.
Très bien.
Et c'est pour ça que je me suis lancée. J'avais envie de montrer que j'étais là et que je soutenais comme je pouvais la cause des dessinateurs.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre dessin ?
Oui.
Ah non, mais ce que je voudrais d'ailleurs, c'est qu'Émilie nous dise, parce qu'elle n'a pas fait que ce dessin-là. Je veux dire, l'opération de l'année dernière a duré 10 semaines.
Ouais, ouais,
et effectivement, elle a comme d'autres d'ailleurs, elle s'est totalement prise au jeu. Et ce que vous nous disiez l'an dernier, Émilie, c'est que, à la limite, cette obligation de faire un ou plusieurs dessins par semaine, vous avez beaucoup plu.
Oui, c'est ça. C'est un rythme à prendre. On s'amuse à regarder l'actualité chaque semaine dans tous les médias et on essaye de trouver des idées sur des thèmes qui nous inspirent. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est d'essayer de trouver un angle différent, un angle d'attaque, une idée un petit peu surprenante pour parler d'un sujet.
Ça, c'est très bien comme analyse, parce que c'est un peu ce que nous disions tout à l'heure, c'est que Émilie n'a pratiquement pas fait de dessins dits politiques. Ou alors, s'ils le sont, ils sont avec une grande souplesse, une grande dextérité, et où l'aspect politique, il est présent, comme dans le dessin dont on va parler, qui lui a fait gagner l'émission, mais en même temps, c'est pas forcément de la politique, c'est en même temps une manière de voir les choses, de voir le monde, et effectivement d'avoir un déclic à un moment par rapport à l'actualité en se disant, tiens, si on la détournait de cette manière, peut-être qu'effectivement, d'abord, ça serait drôle, puisqu'il y a quand même l'humour, il y a une notion d'humour qui existe à chaque fois ou très souvent, et de décalage. Je crois que c'est un mot important par rapport à la réalité, si vous voulez. Le dessin de presse, c'est aussi quelque chose qui est en décalage.
Avant de parler du dessin, Émilie, c'est pas du tout quelque chose que tu y penses pas du tout à te dire, je vais faire un dessin politique quand tu dessines?
Non, c'est pas forcément mon thème de prédilection d'ailleurs. Ça tout va dépendre de l'idée qui va arriver ou pas. Et si c'est sur un thème politique, ce sera un dessin politique. Mais c'est pas du tout obligé.
et pour ce faire, vous écoutiez quoi ? C'était radio, télé, journaux ?
Plutôt, oui, journaux, un petit peu télé, oui.
Ah ouais, d'accord.
Et du coup, cette année, vous avez rejoint les parrains. Hervé, c'est vous qui choisissez les parrains de l'édition ?
Ah, je choisis pas. Je propose à un certain nombre de professionnels, ou à Émilie, de fait, puisqu'elle avait gagné l'an dernier, de devenir les parrains. Et c'est vrai que cette année, on a un ensemble de parrains qui est assez extraordinaire et ils sont hyper motivés et ils réagissent au quart de tour et alors on peut en citer une partie et puis on donnera la parole à Émilie après. Il y a donc au niveau Tourangeau, il y a Brigitte qui est la patronne de la librairie Bédélire que vous connaissez tous en centre-ville, voilà, qui est une extraordinaire librairie que je conseille à tout le monde, on va pas faire de pub, on va dire ça comme ça. Et puis il y a PL, donc Philippe Larbier, qui est dessinateur tourangeau, qui a travaillé qui travaille toujours à la Nouvelle République et à la rubrique Dialogue depuis des années et des années, mais qui est en même temps un dessinateur de bande dessinée, qui fait les petits mythos, etc., etc., qui marche extrêmement bien. Il y a Laurent Audouin, qui est un poitevin, qui fait de la bande dessinée pour enfants, qui fonctionne extrêmement bien. Il y a Laurent Astier, qui est de lui de Château. Alors, pardon, excusez-moi, je m'interromps une seconde dans ma liste pour dire que le choix que nous avons essayé de faire, c'est on a demandé aux gens, bien sûr, on les a contactés, etc., etc., ça s'est pas fait comme ça, d'être représentatif de la zone de diffusion de la Nouvelle République. Donc, en gros, c'est un ou deux par département de zone de la Nouvelle République. Donc, pour Châteauroux, nous avons Laurent Astier, qui est l'auteur de cette extraordinaire bande dessinée qui s'appelle L'Affaire des Affaires et qui raconte l'affaire Clearstream en bande dessinée, l'affaire je me souviens plus de son nom. Et Laurent nous a fait la gentillesse l'an dernier d'offrir son album à Émilie avec une dédicace extraordinaire. Et c'est un album, c'est quatre tomes, je crois, à l'intérieur, je me souviens plus.
Oui.
C'est un gros pavé. Voilà, donc, qui j'ai oublié, Guillaume Bouzard, qui est des Deux-Sèvres et qui travaille au Canard et qui est un dessinateur avec un humour très 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 grinçant, mais qui est drôle, qui est un type absolument charmant. J'ai oublié mon confrère Pascal Vigneron, qui est également à Châteauroux, qui lui est un spécialiste aussi de bande dessinée bien davantage que moi, et qui est un des organisateurs et créateurs du festival Bulberry, qui se tient chaque année dans la Bourges cette fois-ci, puisqu'il a travaillé avant à la Nouvelle République de Bourges. Oui, j'ai dû en oublier. Oui, j'ai oublié bien sûr Bruno Genini, qui est le patron du festival de bande dessinée BD Boom à Blois, et qui nous soutient et qui soutient l'opération, puisque l'an dernier, on va y revenir aussi par l'intermédiaire d'Émilie, l'an dernier, une série de dessins choisis ont été exposés dans le cadre de BD Boom, voilà, avant de venir d'ailleurs à Tours ici. Et puis, il y a deux représentants, en l'occurrence, de personnalités d'Enedis, qui est l'ancienne ERDF, et qui sont des cadres de l'opéra, d'Enedis à Blois, et qui sont les partenaires de l'opération sur le plan blésois. Voilà, le, vous voyez, ça fait un, c'est solide comme juré, ou comme parrain, puisque nous appelons ça les parrains. Ce qui est plus sympa. Mais revenons, voilà.
Bah oui, du coup, ça fait beaucoup de parrains ou de jury. Et Émilie, on peut savoir comment ça se passe, les délibérations? J'imagine que c'est pas toujours facile de se mettre d'accord.
Notre rôle, c'est d'aller voir le site de l'ANR, de regarder tous les dessins proposés par les dessinateurs. Et c'est un système de notation et de... On se met d'accord, en fait, il y a un classement...
Voilà, qui est fait, voilà, exactement.
Un classement, un ordre de préférence, et le préféré tous les parrains, et le dessin qui va sortir dans l'ANR du dimanche. Voilà.
Alors c'était la même chose l'an dernier, si vous voulez, ou alors là, Émilie faisait partie du concurrent.
Et justement, on n'a pas encore parlé de ce dessin, voilà, avec lequel tu as gagné.
Oui, alors ce dessin, dont le titre Hollande et Merkel chez Poutine, voilà, qui faisait passer un message de paix, c'était oui, j'ai déjà oublié, ouais, c'est un
enfant. C'était à l'occasion d'une réunion tripartite à propos de la paix en Ukraine, et donc François Hollande et Angela Merkel se rendaient en Ukraine pour discuter de la paix avec Poutine.
Voilà. Et là, voilà, par contre, je me souviens pourquoi j'ai fait ça, n'est-ce pas? J'ai fait référence aux pigeons, voilà, qui avaient salué... François Hollande lors de la manifestation de tous les présidents suite aux attentats de Charlie. Voilà. Donc ça m'a fait assez rire de représenter une colombe de la paix et le pigeon qui revient pour saluer Hollande. Voilà.
Ouais, exactement. C'était voilà. On est exactement dans ce que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un dessin qu'on peut qualifier de politique, de politique, et qui est en même temps poétique, puisque ça représente deux pigeons. Donc il y a pas une caricature de Hollande, il y a pas une caricature de Merkel. On voit pas le Hollande en train d'embrasser le patron, le médecin, vous savez, urgentiste, qui est en pleurs. Et au moment où Hollande serre contre lui le médecin urgentiste, effectivement il y a un pigeon, voilà, qui malencontreusement, voilà, lui envoie du guano sur son imperméable. Bon, ce qui fait absolument rire tous les gens qui sont autour, y compris d'ailleurs les gens qui étaient en larmes, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de rire devant ce décalage, évidemment. Bon, pauvre Hollande, il n'avait pas eu de chance là non plus. Bon, et donc ce dessin, effectivement, fait allusion à ça, et tous ceux qui l'ont regardé à l'époque ont parfaitement compris. Je veux dire, vous voyez, c'est ça qui est formidable, c'est que la qualité de l'humour et du décalage, il faut bien entendu que les gens le comprennent. Parce que vous pouvez faire des dessins qui tombent complètement à plat. Personne n'y comprend rien. Ouais. Ah bon, c'est drôle.
Oui, c'est un peu comme une blague, en fait.
C'est un peu comme une blague, c'est vrai que c'est ça. Il faut qu'il y ait un effet. S'il n'y a pas d'effet, quelque part, alors l'effet, il peut être graphique, puisque nous avions un autre concurrent qui est toujours là cette année, qui signe Biche et qui est dans l'école des Beaux-Arts, qui lui fait un graphisme, j'allais dire, très hard, très lourd, et qui est très caricatural, et qui est en même temps très politique. Mais Biche, effectivement, lui, c'est du lourd, c'est du costaud, et c'est de la caricature politique. C'est pas forcément drôle, mais c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est irrespectueux. Donc, mais en même temps, ça veut bien dire ce que ça veut dire, si vous voulez quoi. Celui-là, c'était un qui avait beaucoup plu. C'était un dessin, un maquillage. Oui, ça me fait rire en plus. Un maquillage de DSK qui était avec la coiffure de Mylène Farmer. Et donc, bon, et j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il mettait comme légende ?
Je suis libertine.
Ah, c'est excellent. Oui, c'est normal. Oui, voilà. Bon, le décalage là aussi, bien que le dessin soit abrupt. Si vous voulez, beaucoup moins doux, parce que la qualité extraordinaire d'Emily, il ne faut pas le dire, elle ne le dira pas, c'est la douceur de son trait. Elle a un dessin animalier, d'ailleurs, je crois qu'elle aurait aimé faire du dessin animalier. Elle a un dessin à la Walt Disney, on va dire ça comme ça, même si ce n'est pas tout à fait exact. Mais effectivement, dans son univers très doux et très rond, se cachent de très très jolies épines et quelques pics qu'elle sait parfaitement placer.
Alors justement, pour parler de Je suis l'actu, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les modalités du concours, si par exemple certains de nos internautes veulent y participer, comment ils doivent s'y prendre ?
Ah oui, nous aimerions bien que vos internautes y participent. D'ailleurs, ma présence ici, et merci Samuel, et merci Johan, et merci Radio Campus, c'est effectivement de lancer un peu un appel, puisque cette année, le concours fonctionne un petit peu moins bien que l'an dernier, envers les jeunes dessinateurs, les étudiants, les gens de chez Brassard, ou des Beaux-Arts, ou je ne sais, voilà, ou les gens qui sont en terminale et qui font du dessin, qui a envie effectivement de se confronter à ce que Émilie vient de raconter, c'est-à-dire la lecture ou la tous les jours une espèce d'appréciation de l'actualité et dont qu'on transforme en dessin. Donc voilà, donc on a effectivement largement de quoi accueillir des dessinateurs. On serait tout à fait ravis d'avoir des internautes. Bon, il y a aucun souci de ce côté-là. Au contraire, ben, le système, Émilie d'ailleurs peut vous raconter comment elle procédait l'année dernière, puisque le système est le même. Alors comment ça se passe au plan pratique, Émilie ? Qu'est-ce qu'on fait pour envoyer ces dessins à l'ANR ?
Et bah, tous les jeudis avant 15h, il faut envoyer ses dessins sur l'actualité.
Pardon, au départ, vous dessinez, vous faites quoi ? Vous faites sur un carton, vous faites une feuille, comment vous y prenez ?
Eh bien, c'est selon la technique de chacun, en fait. Ouais. Je pense, moi, je commençais par dessiner au crayon sur un bloc tout simple, et après, je refaisais avec le logiciel Illustrator, donc sur l'ordinateur, et j'envoyais
D'accord. Dessins, voilà. D'accord. La colorisation se faisait par Illustrator.
Oui, enfin je refaisais le dessin entièrement.
D'accord. D'accord.
Ça peut être un scan d'un dessin.
Voilà, ça peut être ça aussi, bah oui.
Après, évidemment, on n'est pas obligé du tout de mettre ces dessins informatisés. Ça peut être un dessin papier, il n'y a aucun problème. C'est selon la technique de chacun.
Oui, mais il faut effectivement, comme le dit Samuel, il faut qu'il soit scanné.
Il faut qu'il soit scanné pour pouvoir l'envoyer.
Voilà, vous l'envoyez quand même numériquement.
Voilà. Oui, absolument, tout à fait. Et donc, les dessins sont envoyés effectivement avant le mercredi.
C'est le jeudi 15h.
Avant le jeudi 15h. Dame Ned. Avant le jeudi 15h. Et donc, ils sont. En fait, ils passent dans une espèce de goulot d'étranglement où les membres. Enfin, là, du coup, on va dire le comité de censure. On va l'appeler comme ça, tiens. De la Nouvelle République, à savoir qu'on sommes trois à avoir accès à ces dessins en direct, si vous voulez. Et on les valide. Et dès qu'on les valide, si vous voulez, à ce moment-là, ils arrivent sur le site. Et à ce moment-là, tout le monde peut les voir. Tout le monde, ça veut dire les parrains, bien entendu, qui se rendent donc à ce moment-là sur le site de la Nouvelle République et qui regardent les dessins parus et qui font un choix à ce moment-là, 1, 2, 3 ou un tout seul et qui m'envoient à moi personnellement qui suis le coordinateur de toute cette opération et qui m'envoient leurs résultats. Donc moi je concentre si vous voulez tous les résultats des parrains. Et puis, en fonction des scores qui ont été donnés au dessin, et ben voilà, après, c'est un calcul tout bête. Et celui qui a le plus de voix, on va dire ça comme ça, est choisi pour être dans l'édition dominicale. Et ensuite, si vous voulez, il y a eu, pour en ce qui concerne Émilie, il y a eu 10 parutions le dimanche. Je ne sais pas combien de fois vous aviez
en
été...
En tout, en fait.
En tout, en tout. En tout. Et vous aviez été primé combien de fois, déjà? 3 ou 4 fois, au moins, non, plus
ah,
que
oui.
ça Au moins,
plus ouais,
que
ouais, ça au moins la moitié.
Au moins la moitié. Mais pas fier avec ça. Hein.
Quel palmarès.
Absolument.
Et j'en étais ravie à chaque fois. Je fonçais au kiosque tous les dimanches pour aller voir si c'était mon dessin ou pas qui avait été choisi.
Ouais, c'est génial ça.
Ouais.
Et ça fait des grandes, c'est des gros 4 colonnes. Hein, donc c'était vraiment des.
Ah oui, on peut pas le louper. Ah,
on peut pas le louper. Ouais. Non, ça fait des grosses reproductions quand même. Hein, c'est absolument sympa.
Et je les ai gardées.
Ah c'est vrai.
Ah oui, je les ai classées précieusement, voire même en double exemplaire pour être sûre.
Émilie, est-ce que tu sens que ça a fait évoluer ton dessin, justement, le fait de se forcer à voilà regarder l'actu, à justement avant à envoyer avant la parution
Oui, bah, ça fait évoluer à la fois le style graphique, le trait, en fait, et aussi la façon de trouver les idées, parce qu'il faut vraiment... aller fouiller, se retourner le cerveau pour aller essayer de trouver un angle différent. Ouais. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, ça aide à trouver la façon de trouver la bonne idée. Aussi.
Moi, ça aide à devenir efficace aussi, j'imagine, puisque il faut justement, on n'a pas 15 jours ou 2 mois ou 6 mois pour finir, donc il faut.
Et puis, comme il faut rendre le jeudi 15h, si par exemple il y a une actu qui arrive le mercredi soir ou le jeudi matin. Et bah si on veut que ça paraisse le dimanche même, il faut se dépêcher pour
en refaire un.
Voilà,
ou...
pour c'est ce qu'on appelle la deadline hein, dans le métier.
Voilà,
il faut se dépêcher, faut être efficace. Et...
Ouais, donc en fait, on est un peu dans la même situation qu'un journaliste.
Exactement, tout à fait. Et en plus, les dessinateurs peuvent fournir jusqu'à 3 dessins par semaine. Donc je sais pas, vous en mettiez plusieurs, Émilie, je me souviens plus.
Oui, en plus.
Donc
deux
c'est
ou trois, à
trois,
fois, ouais.
trois à chaque fois.
Ah ouais.
Donc pendant 10 semaines, ça fait 30 dessins quand même. Hein. C'est vrai que c'est un exercice difficile. Je dois reconnaître effectivement pour les jeunes dessinateurs, pour des gens qui ne sont pas du métier et pour des gens qui découvrent leur rapport à l'actualité, parce que c'est un peu ça aussi, c'est vraiment un exercice compliqué. C'est compliqué déjà quand on est un professionnel, parce qu'on voit bien de temps en temps les grands pros jusqu'à y présent. Je sais pas, imaginons, il arrive de temps en temps que Plantu, en page une du Monde, bah, son dessin fasse pas rire, par exemple, ou soit pas efficace, ou bon, voilà, ça arrive. Et là, effectivement, ils ont une vingtaine d'années, ils se plongent dans l'actu et ils sont obligés, comme le dit très bien Émilie, se torturer les méninges pour trouver quelque chose et pour rapidement le faire et rapidement le mettre en ligne en plus quoi. Hein. Alors c'était vrai qu'au début nous avions avec cet autre dessinateur qui s'appelle Biche dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors lui c'était un sac à noviste. Il lui est arrivé de nous envoyer 5 dessins par semaine, mais il savait très bien qu'il ne pouvait en faire que 3. Mais il était tellement déchaîné qu'il en envoyait 5 en disant bah, la Nouvelle République ils se débrouilleront avec les dessins. Voilà. Et puis effectivement donc oh, pardon.
Non, allez-y.
Pardon. Et donc, au bout du compte, donc, c'est une fois que la décision a été prise de mettre en relation tous les dessins, les 10 dessins en question qui avaient été, entre guillemets, choisis par semaine. Après, la parole n'a plus été aux parrains, mais aux internautes. Et donc, on a lancé un message aux internautes qui suivaient le site Nouvelle République en disant, voilà, les 10 dessins qui ont été promus chaque semaine, à vous de décider dans ces 10 dessins lequel vous plaît le plus et qui pourrait être désigné comme le dessin vainqueur de l'année. Et je dois reconnaître que Émilie n'a pas laissé beaucoup de place aux autres et qu'on a eu quand même, c'était une belle opération puisqu'on a eu près d'un millier de réponses quand même. Ce qui est tout à fait honnête, voilà, par rapport à ce genre de choses. Et donc le dessin d'Émilie a été primé, et donc elle a été déclarée vainqueur du concours. Et puis il y a eu une petite réception à la Nouvelle République où elle a reçu, où elle a été gâtée. Voilà. Et puis ensuite, l'histoire, j'allais dire, ne se termine pas là, puisque donc les 10 dessins, enfin il y a eu une vingtaine de dessins en question qui ont été récupérés, scannés, mis en forme sous glace et tout ça, et qui ont été exposés dans le cadre donc de BD Boom à Blois, dans les locaux de la Nouvelle République à Blois. Et l'idée avait été, qui était une très bonne idée, c'était de mettre en relation le dessin et la page de la Nouvelle République parlant du sujet qui était illustré, qui n'est pas forcément évident, effectivement, vous voyez, comme l'opération Merkel, par exemple, des choses comme ça, c'était pas forcément évident, et donc, il y avait il y avait le dessin encadré, et à côté, encadré pareil, vous aviez la page du journal, enfin, le facsimilé, bien entendu, de la page du journal, expliquant quelque part, le pourquoi du dessin.
Le contexte.
Le contexte, exactement. Et je termine en disant qu'après cette opération, il y a eu une autre opération, puisque cette idée de dessin de presse a beaucoup plu aux organisateurs des Assises du journalisme, qui désormais vont se tenir tous les ans à Tours, et qui se tenaient pour la première année l'année dernière à Tours au mois de mars. Et donc l'exposition de Blois a été présentée dans le cadre des Assises du journalisme, exposée exactement pareil, etc. Et avec un indiscutable succès, puisque bon, moi j'étais présent évidemment, et il y avait vraiment évidemment plein de journalistes qui venaient de partout et tout ça, et les gens vraiment vont disant, mais non, d'une pipe, ces gamins, entre guillemets, sont de véritables professionnels. Donc avec beaucoup d'hommages rendus aux dessinateurs de cette opération.
On rappelle donc que l'opération Je suis l'actu ne se termine que le 10 novembre. Il est donc encore possible pour les jeunes dessinateurs de proposer leur œuvre et peut-être d'avoir la chance d'être publié dans l'ANR.
Tout à fait.
On remercie Hervé et Émilie d'être venus nous en parler.
Merci.
Merci à vous.